Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Je parle régulièrement d'éducation à la sexualité sur ce podcast, ou de rapport à la sexualité, et ce dont je me suis rendu compte, c'est que ça intéresse particulièrement les femmes. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes, même s'ils sont très majoritairement tous dans une démarche très performative, ils n'ont pas spécialement envie d'apprendre. Et aujourd'hui, je reçois Chloé McIntosh, que j'ai déjà reçue sur ce podcast, qui est la fondatrice de l'application qui s'appelle Kama, K-A-M-A. Et avec elle, on va se poser la question de la sexualité masculine. D'abord, pourquoi ils ne s'intéressent pas à l'éducation autour de la sexualité, mais ensuite, comment ils peuvent résoudre des problèmes qu'ils pensent avoir, par exemple une taille de pénis ou simplement le fait de durer plus longtemps, mais aussi vraiment profondément leur rapport à la sexualité. Donc nécessairement, ça touche également les femmes. On parle beaucoup, vous allez vous en rendre compte, de rapports hétérosexuels, ce qui ne veut pas dire qu'on oublie évidemment tous les autres. Je vous laisse écouter cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Chloé.
Bonjour Greg.
Je suis ravi de te recevoir une seconde fois sur ce podcast. Et cette fois-ci, on va parler de la sexualité, mais principalement pour les pénis, ou en tout cas pour les hommes. Parce que moi je suis un homme, je m'intéresse au sujet, et pourtant je me rends compte que dès que tu parles de ce sujet, de l'amélioration, si on peut appeler ça comme ça, de la sexualité, en fait, les hommes s'y intéressent moins, ça attire plutôt les femmes. Et je ne sais pas si ça a cette même sensation d'abord. Et qu'est-ce que toi, ça t'évoque ou comment tu peux potentiellement l'expliquer?
Non, je pense que c'est un point de vue qui est assez évident. Et d'ailleurs, quand j'ai lancé ce projet, donc je suis allée lever de l'argent en fait aux États-Unis pour ce projet, et je me souviens beaucoup la question des investisseurs était Chloé, quel va être ton marché principal ou le marché avec lequel tu veux vraiment commencer le projet, en essayant quand même de m'influencer très fortement vers un projet qui serait adressé aux femmes. Parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus évident. Je suis une femme. On est dans une ère de dans la tech et dans le secteur des startups où vraiment les femmes entrepreneurs maintenant, ça y est, on comprend vraiment que ça apporte de la valeur. C'est accepté, donc ça commence à ouvrir aussi tout un marché. Et je pense que les entrepreneurs le voient en tant qu'opportunité. Ils ont raison. En revanche, moi, mon point de vue n'est pas que stratégique par rapport à l'aspect commercial de la chose, mais vraiment l'intention de créer une opportunité un peu pour tout le monde. Et c'est important parce que finalement, on parle d'hommes et femmes, mais le projet Kama, c'est une opportunité de vraiment revenir vers le corps et de penser au corps à une opportunité d'expérience de vie. Donc, si on vit dans son corps, comment on expérience la vie par rapport à, si on est dans sa tête, principalement, comment on expérience la vie. Et donc, finalement, moi, c'était vraiment important à la base que cette valeur-là, qui était focussée sur le corps lui-même et le potentiel de notre corps humain, qui, à mon avis, est immense et en plus très tourné vers le plaisir. Donc, de son évolution, l'évolution de notre corps, finalement, a été guidée par nos désirs. Si on n'a pas de désir, on meurt. Et donc, c'est quand même très guidé par le plaisir. Et c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié, et je pense que l'homme, d'autant plus, qui n'est pas dans nécessairement dans la frivolité, dans la relaxation dans l'ouverture, dans la réception. Donc, c'est des, c'est des valeurs qui sont associées au plaisir, peuvent trouver ça plus difficile comme zone d'exploration. Et d'autant plus, et je pense que ça, c'est le problème principal qui enlève en fait l'opportunité aux hommes, c'est qu'on a simplifié la sexualité masculine d'une façon tellement extrême que ce qu'ils expérimentent et ce qui est représenté dans le média est aligné. Donc pour eux, pourquoi chercher plus loin ? Alors que la femme, ce qu'elle voit dans le média et ce qu'elle expérimente, c'est pas pareil. Donc elle se dit, je cherche, il y a autre chose, parce que moi, c'est pas ça, ça connecte pas avec moi. Donc je pense que vraiment, à la base, c'est quelque chose, encore une fois, qui est un, c'est des constructions de notre société, des standards et hétéronormatifs, qui font qu'on a beaucoup orienté la sexualité sur le plaisir masculin, et que l'on l'a beaucoup simplifié, parce que quand on a enlevé l'élément féminin, qui est l'élément plus articulé, plus profondeur, plus, qui est un peu dans la découverte, on enlève toute cette énergie-là, toute cette valeur, on se retrouve avec un système de sexe basique, friction, on rentre, on sort, on se touche un peu, on pénètre, on éjacule, c'est fini, quoi. Et ça, c'est le modèle. Alors forcément, pourquoi chercher plus loin ?
Et pourtant, les hommes, ils ont toujours cette... On est dans une société performative, et les hommes, ils ont ce souci de performance. Je ne sais pas si c'est vrai pour les femmes, mais il y a quand même ce souci de performance chez l'homme, en particulier de combien de temps je vais durer, de est-ce que mon pénis est suffisamment dur, enfin tous ces trucs autour de la performance. Donc ça va être intéressant d'abord qu'on parle, je pense, tous les deux de potentiellement de techniques, tu vois, de conseils concrets pour les hommes, parce que ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Et puis après, je serais intéressé pour aller un peu plus loin, c'est-à-dire dans la compréhension du corps de la femme, parce que c'est quand même essentiel, enfin de la femme. Là, je parle vraiment sur un... pardon, je suis hyper hétéronormatif moi aussi, mais bon, c'est un sujet, c'est quand même la majorité de la sexualité malgré tout. Et puis après, qu'on aille, qu'on entre dans des zones qui sont moins expérimentées par une majorité d'hommes. Donc, la question que je me pose, c'est comment ça se fait, peut-être, qu'il y a toujours cette logique performative et pourtant ce désintérêt pour justement améliorer sa performance ? Parce qu'à la limite, on pourrait se dire, pourquoi pas, tu vois, la performance ?
Eh ben oui, justement, la performance est une bonne chose. Après, c'est la définir. Quand on est athlète ou quand on est musicien, la performance, c'est comment on évalue notre qualité, notre habilité d'exprimer notre talent. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important. Après, dans notre société, encore une fois, ça, c'est des choses qu'on construit. On a fait que la performance était plus vite, plus dure, plus haut, plus fort, c'est toujours plus. Et en fait, là où on oublie, et ça c'est une mentalité qui est effectivement plus masculine, c'est d'imaginer notre expérience de vie comme quelque chose de linéaire. Et le problème avec visualiser notre expérience de vie comme quelque chose de linéaire, c'est qu'on peut pas s'arrêter, on peut pas revenir en arrière, on peut pas avoir des hauts et des bas, puisqu'il faut qu'on aille toujours plus vite, plus loin, et c'est comme ça qu'on évalue notre valeur. La réalité, c'est que notre cycle de vie, il est cyclique. C'est-à-dire que tout autour de nous nous le rappelle, il y a des cycles dans la nature, il y a que ça, des cycles dans la nature, et nous, en tant que société overstimulated par tout ce qui est industrialisé, etc., on se dit, mais non, c'est linéaire. Donc déjà, il y a un vrai problème, je dirais, mais presque au centre de nous-mêmes, hein, dans la façon dont on projette une expérience de vie qui ne correspond pas à notre nature. Et là, on se déconnecte complètement avec nous-mêmes, on se déconnecte avec notre environnement. Et là, il y a un élément du coup où la performance n'est plus appliquée de façon objective ou positive, mais devient finalement un outil autodestructif. Parce qu'on est maintenant dans une période de notre évolution où la jeunesse, hein, les hommes qui ont moins de 30 ans, sont ceux les plus affectés par tous les problèmes d'anxiété sexuelle, des érections qui ne sont sur lesquelles on peut pas finalement avoir confiance, où on se sent démuni par des situations qu'on n'arrive pas à contrôler ou nos émotions nous bloquent plutôt que nous inviter à nous ouvrir plus. Et en fait, on a une sorte de malaise parce que il y a très peu de communication dans la sexualité. Et que l'homme, finalement, a hérité de la responsabilité pratiquement non seulement de son plaisir à lui, mais du plaisir de la femme ou du partenaire avec qui il est, qu'on vit en se disant que le plaisir, il va nous arriver si on a la chance d'être avec quelqu'un qui sait comment le trouver et comment nous ouvrir. Au lieu de se dire, le plaisir, il n'y a que moi qui le crée, il n'y a que moi qui peux le créer, mon propre plaisir, il est dans mon corps, il n'y a personne qui le crée, et que c'est en découvrant mon propre corps que je vais pouvoir finalement acquérir des outils et que ça, je peux l'emmener dans n'importe quelle situation, avec n'importe quel partenaire, avec quelqu'un que je viens de rencontrer, avec quelqu'un avec qui je suis depuis très longtemps, parce que mon plaisir, je le comprends et je peux le communiquer. Donc l'homme, lui, il est démuni parce que non seulement les femmes ont aussi beaucoup évolué, la dynamique de relation a beaucoup évolué, donc la projection, j'irais, binaire que l'homme représente et que la femme représente, c'est des choses qui évoluent beaucoup. Il y a eu beaucoup aussi de choses récentes dans nos sociétés autour du mouvement MeToo, etc., qui ont fait que tout ce qui est consensuel, c'est-à-dire cette relation, connexion, communication entre la sexualité est devenue presque plus difficile qu'elle l'était déjà. Et je pense qu'en fait, ce qui manque, c'est vraiment un modèle. C'est-à-dire, c'est très bien tout ça, on en parle beaucoup, la sexualité, on en parle tout le temps. Mais nous, ce qu'on veut vraiment apporter à Kama, et c'est pour ça que j'apprécie ce que tu disais tout à l'heure au niveau des solutions pratiques et d'exercices et de choses qu'on peut communiquer, le plus important, c'est de présenter aux gens une des solutions pratiques, parce que la sexualité, finalement, c'est la seule chose dans notre vie sur laquelle on est curieux et je pense qu'on veut être bon. Les hommes, ils ont un désir profond de trouver et de donner du plaisir profond.
Complètement, ouais.
Je pense que l'homme, à sa grande majorité, ne veut qu'une chose, c'est être capable de donner et de communiquer le plaisir et de voir que la personne avec qui il est s'ouvre, se relaxe et en train de passer un moment super. L'homme, c'est ce qu'il veut. Donc, je pense qu'il y a une volonté de bien faire. Il n'y a pas nécessairement la volonté de prendre que pour lui. Moi, je pense pas que c'est le cas. Donc, c'est vraiment un problème d'éducation qu'on n'a pas reçu et que du coup, on a vraiment détourné et j'irais vraiment corrompu l'opportunité sexuelle, non seulement pour notre plaisir dans le moment, mais aussi pour ce que ça peut nous apporter, par exemple, en termes de confiance en nous, en termes de connaissance de nous-mêmes, en termes de pratique. Par exemple, avoir une pratique autour de la sexualité, quelque chose qui est assez nouveau, cette idée de pratiquer finalement cette chose qu'on veut, on veut être performant, on veut être bon, il faut le pratiquer comme toutes les autres choses dans notre vie. Et donc, comment on se sert de la masturbation, par exemple, comme opportunité de devenir un excellent lover. Au lieu de se dire, la masturbation, c'est pour me relisser vite fait, je le fais tous les jours, ça me connecte avec mon sexualité, ça me garde, je sais pas ce qu'on a dans la tête autour de ça, mais la sexualité, ça devrait être un moment sacré, où on a une intention précise, soit de découvrir quelque chose de nouveau, soit de changer la façon dont on le fait, soit d'aller plus loin, d'essayer de durer plus longtemps, de peu importe ce que ça peut être, d'avoir une intention, de le faire avec un objectif de connexion avec soi-même, donc vraiment de faire l'effort de sentir, d'arrêter peut-être de regarder du porn systématiquement. Je suis pas du tout dans le business de dire aux gens de faire ci ou ça. Le porn a une fonction, mais quand on en dépend et quand on n'arrive plus à trouver une source érotique en soi-même parce que on dépend de cette référence visuelle, là le problème se lève. Et souvent d'ailleurs, les gens s'en rendent compte parce qu'ils se sentent pas très bien après l'interaction porn. Tu te sens un petit peu pas vraiment satisfait, il y a un petit côté, donc tu le sens dans ton corps que c'est pas idéal pour toi. Donc c'est prendre des pauses et de temps en temps, soit par exemple enlever le son garder l'image ou garder l'image, enlever l'image, garder le son. Essayez d'enlever un élément sensoriel pour récupérer cet élément sensoriel pour vous-même. Donc ça, c'est des façons d'utiliser le porn d'une façon adaptée un petit peu et de temps en temps, poser sur une seule image et essayer vraiment de créer le reste en soi-même. Donc, trouver des moyens pour faire des transitions par rapport à des habitudes qui finalement ne nous servent pas.
Moi, ce qu'on m'avait dit sur le porn, c'était que, je crois que c'est Olam Degé qui m'avait dit ça, que la meilleure technique, c'était sans doute de regarder le porn, de mettre l'ordinateur, le téléphone de côté et de se masturber ensuite.
Et en réimaginant la scène.
Ouais, exactement. Enfin, ouais. En jouant avec ton imagination, en fait.
Alors, je pense que c'est une bonne méthode. Ce qu'il faudrait juste ajouter, c'est d'avoir vraiment une orientation de l'attention, de l'awareness dans le corps. C'est-à-dire que si on va visualiser, le problème du porn, c'est que c'est filmé pour la caméra. Donc, l'intimité n'est pas là parce qu'on est loin. On doit s'assurer que les corps sont suffisamment loin des autres pour pouvoir voir le détail de la partie érotique, c'est-à-dire les sexes qui s'activent les uns avec les autres. Donc, du coup, il y a une espèce d'espace qui est créé qui fait qu'on n'a plus d'intimité. Et donc, quand on utilise le porn, on se dissocie beaucoup de cette partie intime de la sexualité et souvent, du coup, ça crée une expérience du sexe lui-même où l'homme n'est pas capable d'ouvrir son cœur. L'homme n'est pas capable d'être disponible émotionnellement pendant l'expérience parce que justement, pour lui, c'est quelque chose qu'on regarde de l'extérieur et c'est le visuel qui est érotique au lieu de vraiment la sensation interne. Donc ça, c'est le shift qui est super important. On appelle ça en anglais « introspective awareness », donc l'awareness interoceptive, donc qui vient de l'intérieur du corps. Donc c'est en sensualité, on a deux notions. On a « je ressens du plaisir parce que je vois la main de quelqu'un me toucher et de voir cette main me toucher, de recevoir ce toucher, c'est ce qui me redonne du plaisir. » Et l'opposé, c'est que je suis la main, je suis moi et je reçois, c'est ma main qui reçoit ce toucher. Donc, le visuel est dans mon corps, dans la réception de ce toucher. C'est une nuance super importante. Une des outils les plus importants si on veut commencer à changer son expérience du sexe. Et ça, c'est très, très vrai pour les femmes qui sont souvent dans leur tête à se juger, à dire « Ah, mon ventre, là, ça va pas, est-ce que je prends trop longtemps ?» Et elles sont dans leur tête. Donc, le training de vraiment sentir où je suis dans mon corps et de ralentir l'expérience le plus possible. Une des erreurs principales, je pense, que les hommes font par réponse à un modèle qui leur est présenté, c'est que ce sexe de friction qui va dehors et dehors de façon linéaire est pratiquement une méthode de désensitisation du sexe. Parce que quand on fait ça, par exemple, si on porte une chaussure neuve et on finit par avoir une cloque, c'est la peau qui crée une barrière pour qu'il n'y ait pas de douleur, en fait. Quand on fait le friction de sexe, on fait la même chose. On désensitise complètement les tissus érectiles qui sont dans le vagin et qui sont aussi sur le pénis. Et que à force de faire ça, le sexe, finalement, n'a plus beaucoup de sensations. On se retrouve où il faut que ce soit plus dur, plus fort, plus rapide pour sentir. Et quand les hommes pensent à durer plus longtemps, ils pensent en fait à l'idée de prendre une pilule qui va leur donner une érection super dure, qu'ils vont pouvoir faire ça pendant 3 heures. Mais la femme, elle veut pas ça pendant 3 heures. C'est la dernière chose qu'elle veut. Elle, ce qu'elle voudrait, c'est qu'on se ralentisse, qu'au début, on va rien sentir, parce qu'on est à 80% désensitisé pratiquement, et qu'au fur et à mesure d'être présent, de connecter, de respirer ensemble, de se focusser sur les plus petites sensations, même celles qui sont pas forcément confortables, mais de passer du temps à connecter localement et de ralentir ce processus, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à reconstruire un potentiel cellulaire. Donc vraiment, on parle de la qualité cellulaire, c'est-à-dire que la cellule se désensitise, elle devient soit douloureuse pour repousser la barrière, l'impact, ou éventuellement plus de sensations du tout. Donc quand les femmes disent après 5-10 minutes « moi je m'ennuie », C'est parce qu'elles n'ont plus de sensations. Elles n'ont pas de sensations. S'ennuient quand on n'a pas de sensations. Quand on n'a pas de sensations, on va dans la tête. Quand on n'a pas de sensations, on n'a pas envie que ça dure. Donc, le but de toute l'expérience et l'enseignement qu'on apporte aux hommes qui nous disent ah, « je voudrais durer plus longtemps », on leur dit « on va vous aider à durer plus longtemps, pas en sentant moins, en sentant plus ». Et ça, c'est vraiment le shift qui va transformer la sexualité pour les hommes. C'est de se rendre compte qu'en fait, c'est en sentant plus, en se rendre compte qu'en fait, les signes qui font qu'ils vont éjaculer, ils peuvent les écouter et les sentir, mais bien avant qu'il soit trop tard pour les gérer. C'est en se de développant cette lecture de soi-même, ce langage en fait sensuel, que non seulement la communication avec soi-même va être meilleure, et la communication avec le partenaire.
Et alors du coup, on va être un peu concret. Moi, j'avais plein de... En t'écoutant, il y avait plein de questions qui me venaient, en particulier le fait que les mecs parlent pas pendant l'acte, le fait que les mecs ne touchent pas. T'as parlé de la masturbation aussi. Mais comme là, t'es sur la notion de durer plus longtemps, de manière concrète, comment on fait, admettons que je suis un éjaculateur précoce, comment je fais pour justement durer plus longtemps, tu vois?
Alors... La pratique principale, ça s'appelle edging. Je ne sais pas comment ça se dit en français.
Je ne sais pas non plus.
Donc, edging, c'est une pratique qui consiste traditionnellement à arrêter tout et à essayer d'arrêter, en fait, d'avoir un orgasme pour construire un potentiel d'avoir un orgasme plus important sur la durée. Donc, par exemple, pendant une semaine, on fait l'amour avec quelqu'un, soit on se masturbe, c'est plus facile de le faire en se masturbant. Et traditionnellement, edging, ça serait expliqué comme au moment où si let's say 0, t'es pas aroused, t'es pas excité, et 10, c'est un orgasme, quand t'arrives vers 7 ou 8, eh ben tu t'arrêtes, c'est-à-dire que tu penses à ta grand-mère, tu t'arrêtes, tu essaies de tout arrêter. Et souvent, ça veut dire que on se crispe, on serre les muscles du pelvis, on se contracte, on arrête de respirer et on se crispe le tout et on essaie d'arrêter. Nous, à Kama, ce qu'on essaie de faire passer, c'est l'idée qu'en fait, edging, on peut l'utiliser pour continuer. Et on le fait en apprenant à lire dans son corps l'origine des signaux qui font qu'on va pas pouvoir se contrôler un peu plus tard. Et essentiellement, travailler avec la respiration et travailler avec les muscles du pelvis, du pelvic floor. Et on est capable de complètement réguler et contrôler et créer de l'option, en fait, hein, par rapport à comment on veut que l'expérience se développe, simplement en utilisant ces outils-là. Et ça veut dire que on se masturbe, on fait cette pratique d'edging, on arrive à un 6 et un 7, on a déjà reconnu que ça va monter, on commence à pousser, donc au lieu de se serrer le pelvic floor, de contracter, ce qui va ne faire que nous perdre le contrôle finalement, on va se mettre dans le système parasympathétique, c'est-à-dire la relaxation. On va pousser, on va respirer très, très, très profondément dans le ventre. On va se relaxer, on va centrer son awareness autour justement du pénis et on va se concentrer simplement sur la relaxation. On peut éventuellement attraper aussi, mettre entre l'index et le pouce, hein, attraper en fait les testicules, hein, juste sous le pénis à la base, et les tirer légèrement, parce qu'en fait quand on va éjaculer, les testicules remontent. D'accord. pour se rapprocher en fait, parce qu'en général elles sont descendues pour que la température soit plus basse. Donc quand ça remonte, c'est le signe que c'est le corps qui va amener l'éjaculation. Donc on peut aussi respirer profondément et retenir en fait pour que ça se passe, donc en simplement en maintenant la position des testicules, et ça va aussi permettre d'arrêter la déclenche. Et ce que ça permet après, c'est de continuer. Donc ces pratiques-là de respiration, elles peuvent être appliquées pendant qu'on fait l'amour avec quelqu'un, et du coup, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de s'arrêter. C'est-à-dire que la personne qui reçoit l'expérience ou qui est avec vous, elle peut continuer à prendre son plaisir, elle va devoir aussi s'arrêter, respirer, mais on n'est pas dans un cas où on doit s'arrêter. Et là, on va commencer à construire des plateaux d'expérience où on va atteindre un certain niveau d'excitation, où on sent que si on continue, on va probablement avoir un orgasme, on se détend, on fait une pause. L'importance de la pause dans le sexe est essentielle. Malheureusement, le porn nous montre des séquences continues qui sont ininterrompues. Le pénis a un cycle naturel qui passe de l'érection à semi-érection à la relaxation dans l'expérience sexuelle. C'est-à-dire que c'est complètement normal pour un homme de perdre son érection dans l'expérience sexuelle. Ça ne veut pas dire rien du tout. Ça veut dire que son corps a besoin de prendre une pause, ce qui est complètement normal parce que c'est encore une fois un cycle. Ça, c'est l'opportunité idéale pour commencer à utiliser ses doigts, sa bouche sur la personne qui, elle, a beaucoup plus de chances de répondre de toute façon, en particulier quand il s'agit du plaisir interne, à la stimulation avec les doigts qui vont être plus précises, plus intuitives, etc. Donc, c'est l'alternation entre la pénétration et ce qui n'est pas pénétration, qui est aussi quelque chose qu'on ne voit très peu et qui permet vraiment d'étendre l'expérience sexuelle sans avoir à avoir ce modèle de répétition complètement continue où on a aussi des sons. Tu me parlais du fait que les hommes ne communiquent pas, les femmes ne communiquent pas non plus, personne ne communique dans le sexe. C'est-à-dire qu'on est complètement dans le noir, on n'a aucune idée si ce qu'on est en train de faire, la personne, elle pense à autre chose. On n'a pas de feedback loop. Alors que tu sais, l'intimité, c'est un truc que j'ai découvert assez récemment, parce que je cherche souvent à concrétiser des concepts abstraits. Par exemple, l'intimité, mais qu'est-ce que c'est ? L'intimité, c'est le feedback que tu reçois quand tu envoies une intention vers quelqu'un. Donc, je m'approche vers toi et mon intention, quand je suis devant toi, je m'approche dans ton espace privé, c'est de t'embrasser. Si toi, tu vas légèrement vers moi et tu me donnes une réponse positive sans nécessairement acter dessus, je vais recevoir ça comme de l'intimité. C'est-à-dire qu'on a créé maintenant un espace intime entre les deux où ce que je veux et ce que tu veux, c'est aligné. C'est l'intimité. Donc, si on ne connecte pas pendant l'acte sexuel et qu'on n'a pas cette réponse, est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça te fait plaisir? Est-ce qu'on est dans cet échange, cette communication? On perd l'intimité et la connexion. Les gens disent, mais je me sens pas assez connecté. J'aimerais bien trouver de la connexion. Et c'est une sorte de concept qu'on veut, on désire, mais comment on fait? C'est des choses pratiques. Un autre concept intéressant, c'est l'idée de la tension sexuelle, cette espèce d'électricité qu'on sent dans son corps quand on est dans la phase, un peu comme des aimants. Avant que ça se touche, on est dans la traction très forte. Et la réalisation que la tension sexuelle, c'est l'espace entre toi et moi. C'est-à-dire que si on est assis sur un canapé, qu'on est en train de parler, et que maintenant, moi, je suis consciente qu'il y a un espace entre toi et moi. Je mets une intention dans cet espace. Que maintenant, j'aimerais créer une dynamique de connexion. Quand je vais me rapprocher, toi, tu vas le sentir. Si je ne suis pas consciente de cet espace et que je te touche, ça fait complètement tomber la tension sexuelle. Parce que tout d'un coup, l'espace n'est pas respecté. Donc, quand tu es dans un couple, et que le couple, souvent, nous dit, on a un problème de couple, c'est qu'on a pas envie du sexe au même moment. On est en mismatch, quoi. Et lui, il veut, moi, je veux, c'est pas au même temps, on n'arrive pas à s'aligner. Le plus important dans ces cas-là, c'est de reconstruire, de recharger l'espace, de recharger la tension qui est autour de nous, par recréer l'intention du toucher. Par exemple, quand on rentre dans la pièce, au lieu de toucher son partenaire de façon insignifiante, juste parce qu'ils sont là, parce qu'on a l'habitude mécanique. De le faire, ça ne veut plus rien dire, on ne le fait pas. On ne touche que quand on a vraiment quelque chose qu'on veut faire passer. Et à ce moment-là, on s'arrête, on se regarde, on l'exprime juste par son énergie. C'est reçu, ça crée une connexion, ça fait du bien, on se sent connecté et c'est tout. Et on le fait quand on s'embrasse, quand on se touche. Et ça devient finalement, cette habilité-là de recharger l'espace va éventuellement créer de nouveau la charge sexuelle, la charge érotique. Donc, c'est des choses pratiques. Ce qui nous manque dans ce secteur, c'est vraiment l'éducation pratique.
Mais quand je parlais du son tout à l'heure, je disais, en tout cas, encore une fois, dans des relations hétéro, la femme, en tout cas, tu vois, généralement, alors bon, après, voilà, c'est chaque cas différent, fait du bruit, tu vois. Après, c'est aussi dans une reproduction du porno, attention. Mm-hmm. Hein, tu vois, il y a beaucoup de « i » qui passent et mm-hmm. on pourra reparler du « i » ensemble. Mais l'homme, souvent, lui, il n'y a même pas... tu vois, il y a même pas un, enfin il y a rien en fait, il y a même pas, enfin parce que toi t'es parti déjà sur qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me fait du bien, est-ce que par exemple mes tétons sont sensibles, est-ce qu'ils le sont pas, est-ce que j'aime bien être embrassé ici, est-ce que j'aime bien quand tu me fais ça, de dire à l'autre personne j'en sais rien, j'aime ton odeur, j'aime ta peau, j'aime si j'aime ça, enfin peu importe ce que tu lui dis. Alors ça c'est encore une étape à la limite au-dessus, mais il y a une étape première qui est juste de formuler quelque chose, tu vois, par exemple, j'en sais rien, tu reçois une fellation, ou même pas, tu vois, juste faire du bruit, en fait, tu vois, de signifier à l'autre que tu aimes bien ce qui est en train de se passer, en fait.
Ouais, et je pense que, en fait, tu sais, je me souviens très bien au début de mon training, c'est-à-dire à peu près un an et demi, j'ai commencé vraiment à m'appliquer, à chercher des pratiques, des différentes sources. Parce qu'en fait, finalement, si tu penses, hein, pour moi, la sexualité, ça devrait être un secteur éducatif, hein, avec des personnalités qui représentent une méthode, une méthodologie. Tu dis, voilà, moi, je vais aller bosser avec docteur machin, j'adore sa méthode, et c'est focusé sur l'intimité. Après l'autre, non, moi je vais travailler avec machin, je vais prendre ce cours. Ça focus sur la spiritualité et le sexe. Ah ben tu vois, ça serait bien qu'il y ait des écoles en fait, tu vois, où tu peux vraiment approfondir, découvrir comme dans plein d'autres trucs. Et c'est vrai que le problème principal et la raison pour laquelle on n'évolue pas dans ce secteur, et on n'a quand même pas du tout évolué, parce que si tu penses qu'en fait, presque il y a 500 ans, la qualité sexuelle, en tout cas l'expérience sexuelle féminine, finalement, n'était pas dissimilaire à ce qu'elle est aujourd'hui, ce qui est quand même incroyable, si tu veux. Et c'est parce qu'on n'en parle pas. C'est parce qu'on n'est pas vocal, hein, donc on n'est pas vocal à aucun niveau. C'est-à-dire que c'est jamais vraiment un sujet où on souffre facilement, c'est pas un sujet où on s'exprime. Et effectivement, quand on est dans l'expérience, on a du mal à ouvrir la bouche. Il y a beaucoup de honte autour de la sexualité. C'est le plus gros bloc, je dirais, à l'échelle la plus importante autour du sexe. C'est vraiment la honte et tous les schémas de honte qui se multiplie et s'associe depuis la naissance et quand on grandit. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui fait que l'homme, qui aussi est vu comme quelqu'un qui doit pas vraiment exprimer ses émotions ou être capable de se laisser aller, n'est pas vraiment invité à s'exprimer. C'est aussi que dans la représentation médiatique, de nouveau, et porn, ben, finalement, oui, on entend que la femme qui fait des cris un peu bizarres. Et finalement, le plaisir, le bruit du plaisir, je me suis rendu compte que c'est moins inconvénient pour les gens d'entendre une personne se faire mais tabasser que d'entendre des bruits érotiques, des moanings, quoi, tu vois. Je pense que les gens sont plus inconfortables dans de sons violents, et les gens sont aussi plus confortables avec des visuels violents, parce que si tu regardes Netflix, hein, y a de la violence profonde et il n'y a pas de sexualité. Donc, on est immune à des choses comme ça. Et donc, je pense que le problème de la voix dans le son, moi je me souviens au début de mon training, un des teachers, des personnes avec personnes avec qui j'ai bossé, me disait un des points les plus importants, ça va être l'activation du nerf vagus là, qui est en fait qui connecte à la mâchoire, aux cordes vocales, et qui connecte à tous les organes vitaux, et qui est aussi connecté au pelvis, et connecté au cervix, et connecté à une partie aussi à l'intérieur du vagin. Et la voix, on parle aussi de la voix dans les chakras, hein, l'importance de cette voix, la voix qui sort, c'est extrêmement connecté au plaisir. C'est une activation qui rappelle à ton corps, à ton système nerveux, ça crée des vibrations internes. On est fait de 70% d'eau. Donc, tout ce qui est vibration, tout ce qui est voix, pour nous, est super important en termes de communication. Et c'est aussi notre première forme de communication. Avant de parler, on faisait des sons. Donc, c'est hyper, je dirais, c'est innate, hein, dans notre système. Donc, quand on ne communique pas avec le son, on perd une dimension énorme de connaissance de l'autre, de connexion, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de réparer dans notre proposition également. Et moi, c'est finalement une des choses qui a transformé mon expérience du plaisir et que même encore aujourd'hui, quand j'oublie d'utiliser ma voix, je sens une différence, mais vraiment importante.
Majeure.
Mais vraiment importante. C'est-à-dire que c'est incroyable à quel point ça te libère, ça te garde présent, ça crée cette vibration, ça te, la connexion mind-body devient vraiment, vraiment effective, hein, je dirais, avec la voix. Et en plus, tu vois, moi, depuis que je pratique, j'ai eu des expériences avec des hommes, donc vraiment être capable de comparer un petit peu comment ce que je sais maintenant a un impact dans la façon dont j'interacte avec d'autres personnes. Et les deux choses sur lesquelles je dois insister le plus, c'est plus doucement. Mais vraiment, même quand je dis, mais encore plus doucement, c'est jamais assez doucement. Et express, d'encourager la personne de s'exprimer et de la guider avec d'abord de la respiration forte, de vraiment, j'irais guider par modèle. Que la personne qui a des idées sur comment améliorer l'expérience engage. La respiration, c'est un moyen excellent, facile, hein, je dirais pas trop intimidant, de commencer à créer cette connexion, cette présence, d'utiliser le système et d'activer le système nerveux, de se mettre dans la bonne, je dirais, disposition. Donc, accompagner déjà avec la respiration, de commencer vraiment à pousser les aisselles et à utiliser le pelvic floor, à activer le pelvic floor et la respiration. Ces deux choses-là vont commencer déjà à enlever le blocage tête dans lequel l'homme ne se donne pas la permission de s'exprimer et va devenir plus naturel. Parce que finalement, ce qui est intéressant et un peu triste, hein, dans le travail qu'on fait, c'est qu'on essaie simplement de revenir à ce qui est naturel. C'est-à-dire que le sexe friction ne correspond pas à notre anatomie, c'est pas naturel. Les bruits qui nous rappellent encore vers le haut, vers la tête, vers le cérébral, c'est pas naturel. Les sons sexuels, c'est ça, c'est les sons naturels sexuels. Mais c'est comme ça, c'est des sons plus animaliers. On est un peu embarrassé d'aller dans ces zones-là. Mais ça, c'est ce qui est naturel. C'est là que la vibration va se positionner. Quand on est vers le bas, on est vers le bas du corps. Quand on est vers le haut, on est vers le haut du corps. Donc, il y a plein de choses qu'on a finalement, on doit déconstruire pour amener l'homme dans sa position de masculine, c'est-à-dire son rôle, comme on en a parlé d'ailleurs ensemble avant, c'est vraiment de hold space. La valeur du masculine, c'est son pouvoir énergétique, sa stature, je dirais, de king, de roi, de tenir l'espace pour que l'énergie féminine puisse s'exprimer, se libérer, s'ouvrir. Donc, il doit être disponible émotionnellement. Il doit encourager la femme. Il doit créer un espace où il n'y a pas de honte, où c'est un peu messy. Il y a des fluides, il y a des bruits. C'est comme ça, le sexe. C'est, si on ne fait pas de bruit aussi, après, quand il y a un bruit bizarre, ça fait encore plus bizarre, quoi. Tu vois ?
C'est clair. Je ne sais pas comment les gens vont réagir à cette histoire de roi versus, donc tu vois, dans l'énergie masculine versus l'énergie féminine. Moi, ce que je trouve intéressant dans l'énergie masculine, tu vois, je trouve que c'est une énergie qui est douce et puissante à la fois. Normalement, en fait, c'est pas forcément l'imaginaire qu'on a autour de l'énergie masculine. Et l'énergie masculine, encore une fois, étant autant chez l'homme que chez la femme, enfin, pour moi, on a évidemment tous les deux. Il y a vraiment cette énergie qui est très douce et puissante, tandis que j'ai l'impression que l'énergie féminine, elle est beaucoup plus dans le soin, dans le caring. Elle est puissante aussi, évidemment, mais c'est une autre typologie d'énergie. Enfin, c'est bon.
Ouais, non, mais je pense qu'en plus, déjà, il y a beaucoup de types d'énergie. Il y a des gens qui sont plus sexuels et dans la sexualité, il y a des gens qui sont plus sensuels, il y a des gens qui sont plus dans le kink, dans les edges, dans les choses un peu plus transgressives, encore que je pense que c'est un misunderstanding, un construit de notre société, encore une fois. Donc, je pense qu'en fait, même si on a toujours ce yin and yang, cette valeur, je dirais, binaire qui est vraiment... ça fait partie de notre structure. Je pense qu'en dehors de ça, il y a maintenant de plus en plus une sorte de, on accepte de plus en plus la diversité et aussi la fluidité de l'un vers l'autre. Et je pense que ça qui est important, et c'est ça qui un peu nous a tous bloqués, c'est que on pensait pendant très longtemps qu'on devait prendre des décisions définitives par rapport à qui on est et comment on se présente dans le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, la génération plus jeune, qui presque 50% maintenant ne se déclare plus en tant que binaire, c'est-à-dire que vraiment il y a un désir de marquer un point de vue sur cette nouvelle perspective, ne veulent plus se définir. Aujourd'hui, je suis ça, demain, j'ai peut-être envie d'être avec ce type de personne, et je pense que c'est vraiment pour moi ce que je vois qui est enrichissant dans cette génération qui est vraiment très différente, je pense, de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, parce que c'est eux qui ont l'opinion. Pour la première fois depuis toute chance toujours dans notre société, civilisation, maintenant la génération la plus jeune, finalement, a presque le plus de poids. Et l'ombiqueuse, parce qu'elles ont cette connexion avec une réalité, finalement, que nous, on n'arrive pas à adapter assez facilement. Et la valeur est vraiment dans cette connexion avec la réalité. Et la réalité, c'est que les choses sont en train de changer et que moi, récemment, j'ai été à une soirée Halloween avec, je pense que c'était des gens qui étaient dans les 20-25 ans. Et je remarquais d'abord que les jeunes ne boivent plus beaucoup d'alcool, ils prennent des psychédéliques, hein, et je pense que c'est une amélioration phénoménale de l'énergie justement qui est autour de la scène de la nuit en tout cas, avec cette génération, moi, je le sens. Et l'autre chose que j'ai remarqué beaucoup plus, c'est que les hommes, donc c'était Halloween, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient, presque déguisés avec des costumes qui correspondraient beaucoup plus à des homosexuels, mais super proud et fiers de dire, voilà, j'ai aucun problème en tant qu'homme à avoir mes fesses à l'air et mettre des trucs moulants et être un homme. Et m'associer visuellement à des stéréotypes qui correspondent à des hommes qui sont gays, si tu veux. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui n'existait pas, moi, quand j'ai grandi. Les hétéros, les hommes hétéros ne voulaient aucune association. La peur d'avoir ce label hein, qui à cause d'un comportement ou quelque chose qu'on dirait ou quelque chose avec lequel on s'habillerait, mais une telle dénonciation et je dirais ségrégation de cette communauté qui n'existe plus aujourd'hui. Donc c'est quand même des choses positives qui changent, qui donnent aux hommes, en tout cas de cette génération, une ouverture d'esprit qui, je pense, va faciliter la connexion vers le féminin. Que l'homme va se sentir finalement de se déguiser en femme, d'être dans ce corps de femme, cette énergie, c'est drôle, c'est fun, et je pense que ça ouvre beaucoup plus d'opportunités justement d'avoir des comportements où on commence à se poser plus de questions parce qu'il y a plus de curiosité, il y a plus d'exploration, et c'est vraiment ce qui a manqué dans notre expérience du sexe.
Et alors, c'est sans doute le moment de parler de l'activation du périnée, du coup, où tu vois, moi, c'est typiquement un truc, je vais rentrer dans ma sexualité, mais où moi, typiquement, je suis encore un peu bloqué parce que je pense que j'ai tout cet imaginaire, parce que je suis hétéro et que j'ai tout cet imaginaire effectivement gay, j'ai encore du mal avec l'activation du périnée. Et pourtant, je sais, enfin, tu vois, parce que je m'intéresse au sujet, évidemment, que c'est une zone hyper importante pour le plaisir masculin. Et pourtant, tu vois, c'est encore un truc qui est un peu bloqué. Mais je veux bien que tu nous en parles un peu de l'activation du périnée, du coup.
Alors, déjà, l'activation du périnée, je ne sais pas exactement ce que tu veux dire par là. Ah, mais le périnée, qui finalement, pour l'homme en particulier, est intéressant parce qu'à peu près un tiers du pénis est interne. Donc, la partie entre l'anus et les testicules, hein, cette zone-là en particulier, est une zone où il y a beaucoup de tension. Et qui est très important de massage cette zone tous les jours pratiquement pendant 3-4 minutes et de vraiment penser que l'érection elle commence là à cette base là et ça c'est vraiment important et aussi de pratiquer le stretch du pénis. Donc on a des pratiques sur l'application qui expliquent aux hommes aussi que de stretcher le pénis, de détendre tous les ligaments et c'est une pratique vraiment importante parce que plus on est détendu dans cette zone là, plus on a de flexibilité, plus il y a de sang qui va venir. Avec le sang, il y a l'oxygène. Avec l'oxygène, il y a la connexion au système nerveux, le plaisir. Donc, quand on est tendu, alors l'homme, la tension principale, c'est l'anus. Hein, c'est là où il y a le plus grand niveau de tension. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est une tristesse d'une certaine façon que l'homme soit dissocié du plaisir anal, parce que à cause de ces normes hétéronormatives, et que du coup on a presque une abstraction totale de cette zone, c'est-à-dire qu'on la coupe, on la découpe et on l'isole et on la met en dehors de notre sexualité parce qu'on veut pas y penser, on veut pas de contact, ça nous met mal à l'aise finalement. Et c'est une grosse partie, donc je dirais c'est pas simplement juste le plaisir, la prostate, donc on appelle donc le G-spot masculin, qui est positionné, je dirais à peu près à 6 cm à l'intérieur de l'anus masculin, donc la partie qui est vers l'intérieur et qui est accessible, qui est positionnée là, peut-être pour des raisons, je dirais, avec l'évolution de notre anatomie. Moi, je pense qu'il y a toujours une raison, parce que toutes ces années d'évolution, en général, il y a vraiment une optimisation de la chose. Donc, il y a un contact qui est nécessaire avec cette partie de notre corps. Il y a une attention qui est nécessaire. Si c'est tellement près d'un orifice, c'est parce qu'on doit y avoir accès. Donc, pour moi, déjà, le fait que l'homme ne connecte pas avec cette partie de son corps, mais simplement à travers une méditation, c'est-à-dire que là, je porte même pas de rentrer quoi que ce soit dedans. Je dis de créer une awareness, c'est-à-dire se dire, voilà, j'ai une prostate qui est une partie vraiment importante de ma vie d'homme, et que savoir qu'elle est là, connecter avec ça déjà de façon, je dirais, mentale, est assez important. Après, la relaxation de l'anus, je dirais, c'est tout simplement se mettre à quatre pattes ou s'asseoir, se mettre dans son lit, s'allonger sur le dos et peut-être lever ses jambes, etc., et simplement respirer. Et en respirant, en poussant et en relaxant. Et faire ça, mais 2-3 minutes par jour, pour des hommes, ça relaxe cette zone, ça va créer donc plus de relaxation sur toute la partie, ben justement, des organes sexuels, l'érection, tout va devenir, je dirais, beaucoup plus être capable d'optimiser en fait la masturbation, l'expérience sexuelle, parce qu'on est dans ça. Donc c'est des choses qui sont, c'est encore une fois la mind body, parce que dans la tête on a la honte, on a les blocs, on a les trucs. Dans le corps on a la contraction parce qu'on n'a pas justement la relaxation, donc on a deux places de contraction. Et en fait, par les connectant l'une à l'autre, on va relaxer les deux. C'est ça le bénéfice de la mind-body connection. Ça répare les deux.
Et tu parlais tout à l'heure de stretcher le pénis. Je vois, en ayant un, je vois pas du tout à quoi tu fais référence, parce que du coup, tu parles de l'intérieur, parce qu'en fait, j'avais jamais eu cette réflexion.
Ouais. Alors en fait, tu le fais quand le pénis il est pas dur, moyen dur, mais mou. Tu attrapes vraiment à la base. Et tu prends la tête en fait dans une main, et enfin tu fermes la tête et puis tu tiens à la base. Enfin, sur l'application c'est plus facile, Aaron, la guide. Et en fait tu tires vers le bas en respirant. Donc tu prends tu respires et tu tires, tu pousses, et après tu restes là et tu relisses. Et quand ça va relisser, ça va créer le stretch, mais naturellement avec ton corps.
D'accord.
Et si tu le fais sur tout le tour, en fait, tu fais un 360, donc tu étires vraiment partout. Et ça, c'est aussi quelque chose que quelqu'un peut te faire. Hein. C'est quand tu apprends, c'est étonnant la force qui peut être appliquée. C'est-à-dire que moi, je pouvais pas croire à quel point ça fait du bien, apparemment, la personne, quand on tire assez fort. Parce que nous, on nous dit, depuis qu'on est petite, ne touche pas, ça fait mal, attention, ta, ta, ta. Donc, un pénis qui est pas érect, déjà, une femme ne sait pas comment approcher ça. Et d'ailleurs, c'est un des gros problèmes qu'on a en sexualité, c'est qu'on ne touche le sexe que pour le sexe. Ce qui est pas idéal, parce que du coup, on a l'impression que ça n'a que un rôle. C'est donc pas vraiment non plus juste une zone de plaisir pour le plaisir. C'est plaisir pour le sexe. Donc, dans un couple, quand on se sent déjà un peu la pression que quelqu'un veut du sexe avec nous, si on ne touche le sexe que pour le sexe, on n'arrivera jamais à se détendre autour du sexe. Donc, c'est aussi important de pouvoir caresser son partenaire quand il regarde la télé, que son pénis n'est pas du tout actif. Et ça ne veut pas dire que tu veux avoir du sexe. Ça veut juste dire, hello, pénis, c'est agréable. Voilà, c'est tout, quoi. Et d'installer cette relaxation, d'être capable de se toucher sans vouloir dire, après, je vais être devoir... Parce que beaucoup, beaucoup de femmes à qui je parle me disent, mais moi, dans le lit, finalement, je ne donne pas beaucoup de câlins à mon mari parce que si je lui donne des câlins, il veut du sexe. Et c'est quand même dommage de ne pas avoir la capacité ou l'espace pour l'homme. Et ça, c'est une des qualités qui, je pense, qui est à apprendre, c'est de savoir retirer son énergie sexuelle, c'est-à-dire vraiment dans cet espace concret pour la femme, pour qu'elle puisse exprimer sa séduction et qu'elle puisse venir vers vous et vous demande. Ah, j'ai vraiment envie de... Là, j'en ai vraiment envie. C'est quand même agréable que la femme demande aussi. Il faut qu'elle ait l'espace de le faire. Et c'est là où d'apprendre en tant qu'homme à retirer son énergie sexuelle par simplement ne plus avoir l'attente que ça va aller dans cette direction et ne plus faire de gestes intentionnels qui vont dans cette direction. Donc, si on touche parce qu'on veut du sexe, non. Il faut enlever cette habitude-là. Si on regarde la personne en se disant « Oh là là, j'ai vraiment... » Non, on fait la pratique de ne pas y penser, de se dire « Non, mon arousal, mon excitement, c'est ma responsabilité. Si moi, j'ai besoin de sentir ça, je vais aller me toucher. » Et c'est pas... Mon partenaire n'a pas besoin de sentir cette pression. Parce que cette pression-là fait que du coup, elle a moins de chances de s'ouvrir. Une femme, ça lui prend plus de temps pour s'ouvrir. Elle a même chance d'utiliser ses outils de séduction, qui sont en général ce qui aussi active son excitation. Et du coup, on se retrouve un peu dans du flat, quoi. On est un peu « ok, I'll do it ».
Pour rester, alors, je suis navré, hein, c'est vrai qu'on est très... Enfin, moi, en tout cas, je suis très hétéro dans mes questions. Mais il y a aussi une discussion qu'on a eue tous les deux autour de la pénétration et du fait que, comme les hommes hétérosexuels n'ont jamais vraiment subi, je ne sais pas si subi c'est le bon mot, mais en tout cas expérimenté une pénétration. Ils ne se rendent pas compte de ce que ça peut faire. Et généralement, alors sans aller jusqu'au vaginisme, qui est un problème pour le coup, qui est un problème quasiment psychologique, ça peut faire mal. Tu parlais tout à l'heure de friction. j'aime bien l'idée... de se dire qu'en fait, il n'y a pas forcément un donneur à un receveur, mais que c'est en fait finalement le vagin qui va vers le pénis. Et aussi de se dire qu'il faut y aller lentement. Tu parlais tout à l'heure de lentement pendant le geste, mais il y a aussi toute la partie introductive, si on peut appeler ça comme ça, qui doit être lente, parce qu'en fait, c'est pas si évident pour la femme. Et comme l'homme ne fait pas l'expérience, parce que je pense que majoritairement, les hommes hétérosexuels n'ont pas expérimenté, de pénétration anale, par exemple, ils se rendent pas bien compte de ce que ça peut faire, finalement.
Ouais. Et en fait, je dirais que toutes les femmes ont à un moment donné ce qu'on appelle l'anxiété de la pénétration. Et que du coup, finalement, la femme n'est jamais vraiment relaxée. À part si on est vraiment avec un partenaire ou on est connecté et on se sent bien, etc. Mais il y a toujours un risque qu'un mauvais mouvement... pour nous, ça sera vu comme un mauvais mouvement, même si c'était quelque chose qui n'était pas intentionné du tout pour faire mal. Il faut quand même se souvenir que nous, on a un truc quand même dur et excité à l'intérieur de notre corps, qui est dans le milieu de nos organes vitaux. Et que là, il y a des zones aussi de douleur, de trauma, de tension. Chez la femme aussi, il y a des choses. Et nous, c'est à l'intérieur. C'est pas au niveau du périnée nécessairement, c'est à l'intérieur, autour du cervix, autour du G-spot. Donc, il y a vraiment un élément psychosomatique, hein, c'est-à-dire vraiment l'importance d'avoir cette connexion de relaxation de l'esprit, de la relaxation du corps, et d'avoir cette conversation constante avec la personne avec qui on est, que non, I've got you, I can understand votre rythme, je comprends le rythme. Quand la personne s'arrête, on s'arrête tout de suite. Ça, c'est une des choses, moi, je dirais le step by step, hein, pour reprendre les points que tu as pris, c'est on rentre là dans l'expérience sexuelle. Au moment où on va... Déjà, moi, je conseillerais, quoi qu'il arrive, qu'un homme utilise ses doigts pendant 15-20 minutes. Et je dirais pas forcément sa bouche, parce que ça, c'est quelque chose qui peut exposer et rendre la femme plus vulnérable. Et tu es aussi loin. L'avantage des doigts, c'est qu'on est proche, on peut construire l'intimité, on peut s'embrasser, c'est érotique, donc il y a de la valeur là. On a aussi une lecture de l'accord du corps de la personne, donc on va commencer à comprendre où sont les zones et de vraiment se focuser là-dessus, c'est-à-dire qu'utilise les doigts comme une sorte de repérage. Et de se dire, OK, là, j'ai des repères. Quand je vais y aller avec mon pénis, là, j'ai de l'information utile. Plutôt que d'essayer de focusser sur la fille, est-ce qu'elle est en train de venir, de nanana. Non, ça, c'est pas le but. Le but, c'est toi, t'es en train d'apprendre son corps. Donc ça, c'est la première phase. Lubrification, faut pas attendre que la fille, elle soit mouillée. On amène la lubrification tout de suite. Ça détend tout le monde. On le met au get-go. On n'attend pas. On met la lubrification, on demande le choix de lubrification. C'est agréable et on masse. On masse d'abord, on ne fait pas rentrer tout, on masse, on utilise ses qualités de masseur pour détendre la zone et on ne traite pas juste le clitoris ou juste la zone où on se focus sur un point. C'est vraiment d'abord amener le blood flow, relaxer, activer tout le nervous system autour de cette zone. Plus on s'étend, plus on va avoir après un résultat positif. Après, quand on est prêt à la pénétration, on s'arrête à l'entrée. On respire ensemble. On reste à l'entrée, on touche, mais on rentre pas. Et là, on se met d'accord. On est prêt, on se sent bien, on n'a pas besoin de parler. Et après, on commence à rentrer. L'homme ne bouge pas, il ne fait rien. Il reste en position, stop. La fille commence à bouger ses hanches avec des mouvements de rotation, tout petit. Et en même temps, elle pousse son périnée en poussant, ce qui va créer une ouverture. Et quand elle va serrer, ça va créer une suction. Et en fait, moi et l'équipe, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est pas friction sex, c'est suction sex. Il faut transformer la mécanique de j'irais psychosomatique. Là, on est dans la suction. La femme, le vagin, l'orifice, l'anus, ils suckent. C'est eux qui font l'action. C'est comme une bouche. En bouche, on met pas des trucs dans la bouche comme ça en les rentrant dans la bouche. La bouche va vers la chose, goûte avec les lèvres, goûte avec la langue, et après, elle l'envoie plus profondément. On n'est pas dans le... Tu te vois rentrer un truc dans la gorge comme ça, toi? Donc, si tu veux, l'étape d'entrée, c'est vraiment ces rotations. Le vagin, c'est un organe rond. Le pénis, c'est un organe rond. Donc, on va faire des rotations. On commence à découvrir qu'en plus, à l'entrée, il y a des zones érogènes de la femme, mais qui sont largement suffisantes. Et ça, c'est vraiment une démonstration flagrante que la taille vraiment n'est pas si importante, et pas importante comme on l'imagine.
C'est vrai qu'on n'a pas su le sujet de la taille du pénis, effectivement.
Et bien là, c'était le moment d'en parler. C'est que comme c'est dans la précision, c'est dans la délicatesse, quand on commence à se resensibiliser vraiment, et l'avantage d'un pénis aussi qui est pas gros, c'est qu'on peut se détendre dans la pénétration beaucoup plus et qu'on peut commencer à avoir une interaction avec le cervix qui est plus agréable, alors que quand c'est quelque chose de plus important, ça prend beaucoup plus de temps d'ouvrir cette zone. Donc, il y a plein d'avantages. Donc, je reviens à l'entrée. Donc, on fait des rotations et là, vraiment, l'activité de la personne qui est dans cette position de se sucer, en fait, c'est d'être dans l'actif. De respirer, de sentir. Et le fait d'être dans l'actif donne ces sensations, nous garde présents. On a beaucoup moins de chances de se demander à se poser des questions, etc. Après, on continue à aller de dos et on bouge. On bouge ses hanches, le G-spot qui est sur la partie haute. On se déplace, on cherche là, on fait des petites rotations. On est vraiment là dans la deuxième phase d'exploration. Comment ton pénis et mon vagin se rencontrent? Et c'est vraiment la période, comme quand tu rencontres quelqu'un, tu fais small chat, tu vas pas leur demander. C'est pareil. Et après, quand tu vas plus vers l'intérieur, et que là, on est plus peut-être dans un rythme où le corps de la femme, dans ce cas-là, est visuellement ce qu'on appelle engorgé ou engorge, c'est-à-dire il est rempli de sang, à savoir que le sexe féminin a la même capacité l'érection et aussi de l'engorgement, c'est-à-dire la capacité de se remplir du sang. Donc, à peu près 300% entre la partie repos et la partie arouse. Donc, c'est quelque chose qu'on ne représente pas du tout dans le porn. C'est très, très, très rare de voir un corps de femme qui est vraiment complètement dans ce niveau d'excitation. Et quand on est à ce moment-là, alors là, ce qui est intéressant, c'est que les structures internes deviennent donc se durcissent, et en particulier la partie qui est autour du G-spot, donc l'éponge en fait du urethra, le tube par lequel on fait pipi en fait. Cette partie-là, c'est la partie en fait du pénis, hein, quand on se sépare quand on est dans un embryon, ça se sépare après 6-8 semaines, et en fait les deux parties sont les mêmes, elles sont positionnées un peu différemment, hein, l'un externe, l'un interne, mais en fait il y a une érection aussi qui se passe dans le corps féminin, et c'est quand on est dans ce niveau érectif que là, on peut vraiment y aller. Et là, on peut avoir du sexe qui est vraiment fort, qui est dans la friction, qui peut faire beaucoup de plaisir, et là, on peut vraiment se lâcher parce que le corps est préparé, les tissus sont dans la bonne prédisposition, et absolument, là, on est capable d'avoir... Donc moi, je ne dis pas que le seul sexe qu'on doit avoir, c'est la douceur, la lenteur, où on ne fait presque rien. Et je dis que d'être capable d'avoir une sexualité vraiment explosive, diverses et variées, on doit revenir d'abord à un état de sensibilité qui devrait être là sans bouger. C'est-à-dire qu'un corps qui est bien sensibilisé pour son plaisir sexuel, je dirais que même dans la pénétration sans bouger, simplement en activant un petit peu les muscles du Pyrénée, etc., on peut sentir beaucoup de sensations. Et ça, je dirais, c'est très, très, très peu de gens, finalement, qui on n'y pense même pas, en fait, je pense. Cette idée n'est pas vraiment quelque chose qui est véhiculé. Donc, en fait, moi, je ne savais pas. Toute ma vie, j'avais aucune idée. Je m'en veux, d'une certaine façon, un petit peu, en me disant, mais Chloé, pourquoi t'as pas posé plus de questions? Parce que je me dis, moi, qui suis quelqu'un de, tu vois, curieuse, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée. Eh ben, ça m'a pris presque 15 ans de découvrir ça, ce que je sais maintenant. Pendant presque 10 ans de recherche, je ne l'ai pas vu. Ce qui est quand même incroyable.
C'est tellement essentiel que c'est incroyable. Il y a une dimension qu'on a pas abordée encore parce qu'elle est plus spirituelle quand on s'intéresse... Donc, il y a toute cette dimension qu'on a traité autour de des conseils un petit peu pratico-pratiques, de comprendre le corps de l'autre, de dire à l'autre ce qu'on ressent, de faire sentir à l'autre, etc. Enfin bref, je vais pas refaire la conversation, mais il y a une dimension entre guillemets supplémentaire qui serait spirituelle. Et toutes les personnes qui s'intéressent vraiment beaucoup à ce sujet vont sans doute à cet endroit-là. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu aussi de cette dimension spirituelle? Donc, c'est-à-dire une fois qu'on a fait effectivement toutes ces étapes, qu'on a appris, qu'on a compris, etc., ce qui est, je pense, pas la majorité des gens, clairement, il y a cette dimension supplémentaire qui est spirituelle qui m'intéresse aussi.
Je pense que ça peut toucher les gens à n'importe quel moment. Il y a un livre intéressant qui en fait rassemble des histoires que des gens qui ont eu une expérience transcendantale à travers du sexe, et ça l'est arrivé la plupart des gens par hasard. Donc ça, c'est des gens qui n'étaient pas sous influence, qui sont se retrouvés dans une situation où ils ont eu une expérience sexuelle où ils ont complètement transcendanté, c'est-à-dire, je vais essayer de décrire un petit peu parce que c'est le problème de ces mots comme spiritualité, transcendance, etc., c'est que souvent on ne sait pas trop de quoi on parle, donc je ne vais pas imposer ma vue des choses, mais je vais vous dire ce que moi, en tout cas, j'en entends, et c'est que, pour moi, la transcendance, c'est cette habilité d'être tellement présent que on a une sensation d'être tout et que tout est nous. C'est-à-dire qu'on atomise, d'une certaine façon, on sort un peu de l'expérience terrestre, physique, matérielle, et on se retrouve dans une position purement énergétique où le contour de notre corps, finalement, on n'est plus capable de le sentir. On est dans une sensation en général de détente et de plaisir et de légèreté, de connexion à une partie très profonde de nous-mêmes, et ça peut être simplement une pratique qui n'est pas associée à la spiritualité, c'est simplement des gens qui associent ça aux énergies, donc notre capacité simplement de vraiment connecter aux énergies, c'est la présence. C'est vraiment le seul outil. Hein. C'est toutes les pratiques de mindfulness, c'est la présence. On très peu de gens, je pense même pas qu'un humain dans sa vie va jamais avoir l'expérience d'être complètement présent. Parce que si on vivait de cette façon-là, on aurait une société vraiment très différente de celle-là aujourd'hui.
Ça, c'est sûr.
Donc, on n'y est pas du tout. Donc, je pense que c'est cette pratique d'essayer de retrouver cet état qui est dans les dans tout ce qui est taoïsme, tantra, tous les linages, je dirais, anciens des pratiques vraiment qui mettent la sexualité au cœur de la spiritualité, parce que en fait la sexualité, en fait c'est ce qu'ils appellent life force, c'est-à-dire la source de vie. Et que, bien sûr, puisque c'est comme ça qu'on crée la vie, donc c'est aussi la source. Et que cette source de vie, c'est une énergie que l'on peut générer pour nous-mêmes. Donc, quand les gens pensent qu'ils ont des problèmes de désir, ou quand on dit que les hommes pensent au sexe plus que les femmes, en fait, on a, je pense, un misentendu assez profond que la sexualité, le désir sexuel, c'est quelque chose d'intellectuel. À la base, le désir sexuel est quelque chose de physique, et c'est quelque chose qui doit être maintenu, parce qu'encore une fois, quand on vit dans une société qui nous désensitise et qu'on n'est pas en connexion avec la nature, etc., si on ne renforce pas notre connexion à cette énergie-là, on va la perdre, et on va la remplacer par du stress, on va la remplacer par faire de l'exercice de façon excessive. On va trouver une autre façon d'éliminer en fait la tension qu'on a en nous, au lieu d'utiliser finalement ce qui est la façon dont on est construit, notre système, c'est d'utiliser le plaisir comme source de force, comme source qui nous guide dans la vie, comme la chose qui nous connecte avec nous-mêmes, avec nos désirs, pour que quand on sache ce qu'on veut, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, on va vers les choses qui nous satisfassent, qui nous font plaisir, etc. Au lieu d'aller vers les choses qu'on pense qui nous font plaisir, les choses qu'on a été conditionné de penser, les choses qu'on cherche à l'extérieur, les signes qui vont pouvoir nous donner quelque chose de complet. Et finalement, on n'y arrive jamais. Et c'est là où tous les problèmes de santé mentale, de gens qui ont des dépressions, etc., c'est qu'au lieu de trouver en nous-mêmes la réponse, on cherche la réponse ailleurs. Et donc, pour moi, la base de la spiritualité, c'est d'avoir une pratique où on est capable de connecter avec soi-même et être le plus présent possible avec nous-mêmes pour pouvoir finalement avoir... c'est une source de well-being, c'est une source de santé pour nous, d'avoir cette connexion. Donc ça, c'est la première dimension. Je dirais que la deuxième dimension, c'est que... Alors ça, ce qui est génial avec la pratique sexuelle, c'est que grâce à cette life force, cette énergie, on arrive très facilement à rentrer dans un état méditatif très puissant. C'est-à-dire que moi, si je médite, ça va me prendre 45 minutes, je pense, pour être vraiment dans un état où ça y est, je suis bien, je peux rester sans réfléchir, etc. Si j'utilise le plaisir sexuel, c'est-à-dire que je me masturbe d'une façon méditative, en 10 minutes, je suis dans un état extrêmement méditatif, très, très, très présente. Je pense à rien d'autre et j'utilise le plaisir comme pour me garder présente. Donc, ça devient un outil de présence. Et c'est ça qui est un peu la beauté de la chose et encore une fois la tristesse de ce qu'on a fait de la méditation, parce que je pense que je te l'ai déjà dit, la méditation comme on la connaît aujourd'hui dans notre mode moderne, je pense que c'est une corruption de la fonction, à savoir que la fonction de la méditation, c'est pas d'être assis et de ne pas réfléchir et de ne pas bouger, c'est comment apprendre à être présent à tous les moments de notre vie. La méditation en elle-même n'est pas ce qu'on essaie de. C'est pas le succès. Le point de la méditation n'est pas la méditation. Le point de la méditation, c'est de pouvoir être présent à tout moment. Donc, le plaisir, c'est un conduit direct et aussi très agréable et aussi assez facile pour créer, en fait, enlever le stress, parce que le plaisir, c'est l'outil qui, en fait, qui corrige le stress le plus rapidement dans notre système. Avec le plaisir, on va tout de suite dans l'homéostasie, dans l'équilibre. Donc, c'est idéal, hein, pour les gens qui ont des problèmes de stress. Et en plus de ça, on s'enrichit d'une énergie positive, hein, une énergie qu'on est capable de créer soi-même, et que si on n'a pas un orgasme rapide, pour revenir à cette pratique de durer plus longtemps, c'est aussi ce qu'on dit dans des pratiques anciennes, hein, c'est que l'érection, l'homme devrait rentrer mou, pas dur, et sortir dur. L'activité sexuelle, hein, le but, c'est de charger l'homme de cette énergie puissante qu'il va ensuite pouvoir utiliser à bon effet dans d'autres zones de sa vie. Donc, quand le sexe est utilisé pour monter-descendre et pour perdre l'énergie, on n'est jamais vraiment dans cette partie où on élève et on commence à vraiment utiliser la sexualité comme force. Donc ça, c'est le deuxième degré. C'est comment on utilise la sexualité et donc cette partie, je dirais, plus profonde, plus spirituelle de l'expérience sexuelle vers d'autres choses de notre vie. Et on utilise ça comme outil, finalement. Et après, la troisième dimension, c'est vraiment la transcendance, c'est-à-dire vraiment cette expérience que des gens dont les gens parlent, qui peut être soit expérimentée à travers des pratiques de type Kundalini, où on a une activation, et là, on a un flot d'énergie qui est ouvert, et c'est, qui peut être donc activé ensuite avec une autre personne ou toute seule. Donc, c'est l'exercice autour des chakras. Tout ça, c'est des déblocages, en fait, d'énergie qui s'accumulent au cours de notre vie à travers les traumas, les contractions, les frustrations, le fait qu'on n'utilise pas le sexe justement pour se cleanser de nos émotions négatives, pour essayer vraiment d'utiliser ça comme une sorte de reset. On l'utilise comme une release de tension et pas du tout comme un outil. Donc, je pense que toutes ces choses finissent par faire en sorte qu'on n'a pas vraiment la connexion, je dirais, élevée par rapport à la sexualité. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Donc, je recherche beaucoup de secteurs et je suis vraiment à l'écoute de toute pratique qui permette aux gens de réconcilier, s'ils le veulent, la partie, je dirais même, croyance. Donc, je pense que une des grosses douleurs par rapport à la sexualité, c'est cette séparation par rapport à notre représentation du divin, de Dieu, de ce que on pense et la partie la plus pure de notre existence. Et on peut pas l'associer à la beauté du sexe. Et je pense que c'est vraiment très très dommage. Et du coup, pouvoir doucement réconcilier. Pour les gens qui sont prêts à le faire, cette notion-là est quelque chose que moi j'aimerais beaucoup amener à Kama, parce que je pense que, comme tu le dis, il y a des gens qui veulent explorer de plus en plus, et je pense que la spiritualité qui était il n'y a pas très longtemps, on ne pouvait même pas en parler de façon sérieuse. Mmh. Enfin, je ne sais pas si tu te souviens.
Je vois bien.
Mon travail en particulier, mais si tu disais j'ai une pratique spirituelle, mais les gens, ça y est, elle est partie, quoi. Et donc, c'est quand même incroyable à quel point on a réussi à évoluer, je pense, dans ces 10 dernières années, autour de la mindfulness, autour de la spiritualité. Et je pense que c'est l'embodiment, c'est-à-dire l'habilité d'être dans son corps, qui a été perdue il y a quand même longtemps, en tout cas pour les cultures, blanches, parce que dans d'autres cultures, on a plus ça, on en a parlé ensemble. Et je pense que cette déconnexion, on ne peut pas sortir de son corps si on n'a jamais été dans son corps. Les gens ne transcendront pas, il n'y aura pas d'expérience vraiment profonde si d'abord ils n'ont pas la capacité d'avoir une awareness distribuée dans tout leur corps. Tant qu'on sera en polarisation cérébrale, ces expériences-là ne seront pas accessibles. On a besoin d'avoir une distribution d'énergie qui correspond à une connexion à notre environnement et utiliser cette connexion-là vraiment comme une force. Et je pense que c'est ça, la connexion. Donc, les gens, ils parlent beaucoup de connexion. Je pense que si tu demandes aux gens, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils veulent dans une relation, qu'est-ce qu'ils cherchent dans leur relation avec les gens, c'est connexion. Je pense que c'est ce que les gens ils en veulent le plus de ça. Et ce désir vraiment de connecter, parce que je pense qu'on a été un petit peu déçus par la promesse internet, digitale, qu'on allait être tellement connecté et finalement on se retrouve plus isolée et un peu désespérée que jamais. Mmh. Et donc maintenant, la promise est où est-ce qu'on va trouver une nouvelle façon de connecter? Et je pense que là où la sexualité peut devenir pas simplement un outil, je dirais, de plaisir sexuel hein, ou pour améliorer ta relation, mais un outil d'évolution. À grande échelle et de se rendre compte que si on enlève la honte, on accepte nous-mêmes, on accepte les autres, on a une pratique qui nous garde dans notre corps, qu'on a un équilibre de vie un petit peu plus évolué, on a une opportunité, je pense, d'avoir un effet positif hein, sur la façon dont on élève nos enfants, sur ce qu'on leur dit de la sexualité pour qu'eux, ils évoluent de façon positive, que peut-être une éducation riche hein, et même un curriculum sexe dans les écoles, un curriculum, je dirais, sexualité, un curriculum relation, un curriculum comment tu t'occupes de toi-même, des choses essentielles qui sont pas dans les curriculums d'école, je pense que ça serait changement positif, être capable de parler de la sexualité dans les bureaux parce qu'on n'en parle pas non plus et que ça crée des choses vraiment très tristes. Et je dirais le dernier vraiment pilier qui n'a pas explosé, c'est l'inceste. Et j'en parle un petit peu parce que je pense que c'est un sujet qu'on continue de couvrir et qui n'est pas sorti. Tout est sorti, hein, je dirais, dans les traumas aussi de notre société. Beaucoup de choses sont sorties récemment. Et ça, c'est un sujet qui reste malheureusement encore très, très peu discuté. Et tant qu'on n'en discute pas, on en fait la promotion. On le permet. Et je pense que voilà. Donc ça, c'est pour moi, c'est les gros sujets de société sur lesquels on doit s'appliquer pour que les choses vraiment changent. Et je pense que c'est possible avec une méthode. Donc vraiment, notre but à Kama, c'est de créer un nouveau modèle pour le sexe. Un modèle qui sera sur lequel on peut vraiment faire confiance, que la source est scientifique, que ça a été fait de façon recherchée, que c'est prouvé, que ça fonctionne. Le but, c'est qu'on sente mieux. On le fait, on sent mieux. Voilà, le but, c'est vraiment ça.
Merci beaucoup, Chloé. Ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Ouvrir la porte, c'est inviter...
Ouais, tu peux ouvrir, claquer à tout ce que tu veux. Ça peut être...
Alors, j'aimerais ouvrir, ben là, sur ce que j'ai laissé, j'aimerais ouvrir la porte pour des gens qui ont souffert de choses difficiles dans leur enfance. Je pense que j'aimerais ouvrir la porte pour que cette conversation avec cette énergie commence à sortir. Et j'aimerais claquer la porte aux discussions politisées autour de la sexualité parce que c'est exténuant et ça nous ralentit et que c'est presque impossible de parler du sexe sans que ça devienne quelque chose de politique. Et vraiment, c'est dommage, tellement dommage. Parce qu'on a vraiment besoin d'avancer. Tu sais, on a perdu beaucoup de temps parce qu'il n'y avait pas de débat. Et maintenant, ben, il y a un débat, mais qui n'est pas intéressant. Même si je pense que il est temps d'accepter les différences et que d'arrêter d'en débattre et de dire voilà, d'en débattre, que on est différent et dans la curiosité, au moins dans la curiosité. Qu'on va pouvoir vraiment évoluer, que voilà, que pour moi, essayant de faire des choses dans ce secteur, c'est vraiment là où je suis le plus bloquée. C'est pas parce que je peux pas lever d'argent dans le secteur, c'est pas parce que je peux pas acquérir des costumeurs sur les réseaux sociaux. Oui, c'est dur, mais le plus dur, c'est de placer de l'énergie là où on est encore en train de s'énerver sur des trucs où on devrait simplement s'appliquer aux choses qui vont vraiment changer les choses de façon positive. Donc, je pense que c'est intéressant le débat, mais je pense que la responsabilité de l'individu, c'est d'essayer de faire du positif. Donc, quand on participe à ces débats, quelle est l'intention? Est-ce qu'on veut vraiment faire avancer les choses ou est-ce qu'on veut juste mettre un peu plus d'huile sur le feu et voilà, de créer un peu de l'air finalement?
Carrément. Cool. Merci beaucoup, Chloé.
Merci, Greg.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.